Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous sommes au chapitre 17 de Saint Luc sur le polycopier qui comporte les commentaires des Pères de l'Église des chapitres 16 à 20 de Saint Luc à la page 11, au milieu de la page. Donc nous en sommes au chapitre 17 de Saint Luc, versets 31 à 33. À cette heure-là, que celui qui sera sur le toit qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre et que celui qui sera dans les champs, ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Quiconque cherchera à sauver sa vie la perdra, quiconque la perdra la sauvera. Donc notre Seigneur Jésus-Christ avertit ses disciples, ses apôtres, des grandes persécutions qui vont tomber sur les hommes pour les convertir. C'est ce qu'il disait au verset précédent. Je vous les rappelle parce que ce passage-là est une suite des versets 26 à 30 qu'on a déjà expliqué la dernière fois, mais il faut bien se rappeler pour comprendre le commentaire des Pères sur les versets 31 à 33. Les hommes mangeaient et buvaient, dit notre Seigneur. Ils se mariaient et donnaient leur fille au mariage qu'au jour où Noé entra dans l'arche. Alors le déluge vint et les fit tous périr. Comme il est arrivé encore au jour de Lot, les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, il tomba du ciel une pluie de feu et de soufre qui les fait tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme sera révélé. Donc, les pères expliquent que la femme de Lot, donc vous savez que Lot, qui était le neveu d'Abraham, avait été averti par l'ange de s'enfuir immédiatement parce que la cité de Sodome et de Gomorre, les deux cités de Sodome et Gomorre, allaient être détruites par le feu du ciel à cause du péché d'onanisme, du péché d'homosexualité, du péché de sodomie, le nom vient de là. Et il avait donc fait sortir Lot, et son épouse et ses filles, en leur disant bien de ne pas se retourner, de ne pas chercher à retourner en arrière, à regarder vers l'arrière pour assister à la destruction de la ville, mais de s'enfuir le plus vite possible en suivant l'ange. Et la femme de Lot a été trompée par le démon, elle a regardé en arrière, elle a été changée, disent les pères de l'Église, et dit le texte sacré lui-même, elle a été changée en statue de sel. Et donc la femme de Lot, changée en statue de sel, représente ceux qui regardent en arrière dans la tribulation, se séparent eux-mêmes de la promesse divine. Ils sont alors changés, disent les pères, en une statue de sel, pour donner l'exemple aux autres qui doivent assaisonner leur cœur pour ne pas devenir fous. Celui qui regarde en arrière, c'est celui qui veut suivre notre Seigneur Jésus-Christ, mais sans perdre les joies du monde. Il y a beaucoup de catholiques comme ça aujourd'hui. Ils sont certes catholiques, ils essaient de vivre comme des catholiques. Donc, je dirais, leur âme prétend être avec notre Seigneur Jésus-Christ, mais leur cœur est resté avec le monde. C'est tous les gens, si vous voulez, qui vont vivre dans leur famille comme des catholiques, mais qui regardent toujours par la porte de la maison, par la fenêtre, qui soulèvent les rideaux de la maison pour voir ce qui se passe dehors et qui se disent, ah, les gens dehors, ils sont libres, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent s'habiller comme ils veulent, ils peuvent s'amuser, jouir de la vie. Et moi, je suis catholique, alors je suis obligé de suivre notre Seigneur Jésus-Christ, contraint, forcé. Puis après, on se tourne vers le bon Dieu et on dit, oh, bon Dieu, je vous aime. Imaginez une jeune femme catholique qui s'habille comme une catholique, mais qui est tout le temps en train de regarder par la fenêtre de sa maison, en train de qui regarde les jeunes filles de l'extérieur qui sont habillées comme des prostituées, et qui se dit, quel dommage que je puisse pas être comme elle. J'aimerais tant pouvoir m'habiller moi aussi comme une prostituée, mais et là, je suis catholique, alors je suis obligée d'avoir une robe suffisamment longue pour couvrir les genoux en position assise. Quel dommage que je ne sois pas comme elle, comme ces gens de l'extérieur. Puis après, cette jeune fille va se retourner vers son crucifix en disant, mon Dieu, je vous aime. Et un beau jour, le bon Dieu va lui répondre, mademoiselle, vous êtes une menteuse. Vous prétendez m'aimer, mais en fait, vous ne l'aimez pas, parce que là où sont vos sentiments, là où est votre cœur, et là où est votre cœur, là est votre âme. Donc attention, Saint Ambroise nous avertit, la femme de Lot qui regarde en arrière, qui est transformée en statue de sel, perdit le don de sa nature. Car Satan est derrière elle, derrière Sodome. Quiconque fuit l'intempérance se détourne de la luxure et atteint le sommet de la montagne. Celui au contraire qui regarde en arrière ne peut atteindre son but, mais devient fixé sur place. La statue de sel représente ceux qui sont fixés avec le monde. Ils voudraient suivre notre Seigneur Jésus-Christ, mais sans perdre tous les bénéfices du monde. On veut bien suivre notre Seigneur Jésus-Christ, sa croix, mais à condition d'avoir d'abord, avec grand amour pour le monde, avoir joui de tous les plaisirs du monde. Je veux bien suivre la pauvreté, la chasteté, l'obéissance, mon Dieu, mais à condition de pouvoir garder dans mon cœur la liberté, l'égalité, la fraternité. Je veux bien suivre notre Seigneur Jésus-Christ à sa croix, à condition de suivre le monde. Je veux bien suivre les droits de Dieu, à condition de pouvoir garder les droits de l'homme. C'est le monde moderne, c'est l'hypocrisie du monde moderne. La femme de Lot qui regarde en arrière représente donc tout à fait l'Église de Vatican II. Alors qu'au contraire, ceux qui suivent l'ange, qui refusent de regarder en arrière la vie qu'ils laissent par derrière, représentent les catholiques qui se convertissent véritablement. Donc la femme de Lot représente les fausses conversions. Les gens qui se convertissent par intérêt, je dirais, par obligation, mais qui, dans leur cœur, restent attachés aux choses du monde, à la pauvreté. Ils veulent plus la, ils veulent, ils regardent la pauvreté, la chasteté, l'obéissance, mais ils sont attachés dans leur cœur à la liberté, l'égalité et la fraternité. Ce sont les gens qui sont catholiques, si vous voulez, le dimanche de 10h à 11h30. Et puis le reste de la semaine, ils vivent comme des parpaillots, comme des païens. Ils sont très très nombreux. Quand j'étais dans la fraternité Saint-Pédis, surtout à Lille, c'était épouvantable chez certains jeunes, surtout. Il y avait deux vies, deux hommes. Il y avait l'homme catholique le dimanche de 10h à midi. Et dans la semaine, ils vivaient exactement comme des païens. Ils agissaient comme des païens, ils s'habillaient comme des païens. Et ils voulaient, pendant leurs grandes vacances, ils voulaient avoir les mêmes vacances que les païens. Et ces familles qui pourtant venaient à la messe traditionnelle tous les dimanches, allaient tranquillement sur les places de la Côte d'Azur, étaler leur chair au soleil, leur nudité au soleil, d'été sur ces plages, sans aucun scrupule de conscience. Quand je faisais la remarque à ses parents en leur disant, mais comment vos enfants, vos adolescents et vous-même, comment vous allez faire pour rester en état de grâce en étant sur des places où il y a des nudités qui s'étalent de partout? Comment vous allez faire pour aider vos enfants à rester en état de grâce? Les parents me répondaient, la bouche en cœur, Monsieur l'abbé, il est hors de question que nous interdisions à nos enfants les plaisirs de la plage. Et ils y allaient. Mais tu veux vous dire que. Quand on va sur une plage en plein mois d'août, sur une plage de la Côte d'Azur, de la Costa Brava, on garde l'état de grâce pendant quelques secondes. Quelques secondes, l'état de grâce est parti, fondu comme neige au soleil. N'oublions pas que la chose la plus importante dans notre vie, mes chers frères, c'est de sauver notre âme. Et sauver notre âme, ça entraîne certaines exigences. La foi catholique, c'est pas simplement croire. La foi catholique, c'est une praxis. Faut vivre comme un catholique. Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui va rentrer dans le royaume des cieux, nous dit notre Seigneur, celui qui écoute la parole de Dieu, ça c'est la foi, et qui la met en pratique, ça c'est la charité. Donc il faut la charité. Donc la femme de Lot qui se retourne en arrière pour regarder ce qui se passe dans la ville qui est brûlée et détruite par le feu et le soufre à cause de ses péchés de sodomie, Et la femme de Lot représente justement celui qui aime plus le monde que Dieu, le mondain. Avançons versets 34 à 37 de ce chapitre 17 de Saint Luc. Je vous le dis, en cette nuit-là, deux seront dans le même lit, l'un sera pris et l'autre laissé. Deux femmes boudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Deux hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Prenant la parole, ils lui dirent : Où sera-ce, Seigneur ? Il leur répondit : Partout où sera le corps, là aussi se rassembleront les aigles. Encore une fois, notre Seigneur nous avertit, il avertit ses apôtres et nous, pour la même occasion, qu'il va venir comme un voleur. Deux qui sont dans un lit, il y en a un qui est pris, qui va mourir, l'autre qui est resté vivant. Deux femmes qui travaillent ensemble, une est prise et l'autre laissée. Deux hommes qui travaillent dans un champ, l'un est pris et l'autre laissé. Ça représente le fait que notre Seigneur Jésus-Christ va venir sans prévenir. Il ne va pas nous envoyer un fax ou un message électronique pour nous avertir, attention, j'arrive, allez vite vous confesser. Pourquoi est-ce que les gens modernes ont tellement peur de la mort? Les gens modernes ont tellement peur de la mort parce qu'ils ne sont pas prêts à mourir. Si vous vivez en état de grâce, si je vis en état de grâce, le bon Dieu peut venir n'importe quand. Je suis prêt avec sa grâce à passer devant lui. Les gens qui ont peur de la mort sont ceux qui vivent dans le péché. Alors vivons, mes bien chers frères, de telle façon que nous puissions apparaître devant Dieu n'importe quand. Il faut vraiment pouvoir ouvrir la porte de mon âme et que je puisse dire à notre Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur, vous pouvez venir quand vous voulez, mon âme est vôtre, vous pouvez rentrer, vous pouvez fouiller, vous pouvez chercher partout, vous pouvez faire les remarques que vous voulez, que votre volonté soit faite. Et si vous voulez prendre ma vie maintenant, prenez-la. L'important, c'est de vivre en état de grâce, pour pouvoir mourir en état de grâce. Alors, au verset 30, il était dit, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme sera révélé. Ici, au verset 34, il est parlé de la nuit. Je vous le dis, en cette nuit-là, deux seront dans le même lit. L'un sera pris et l'autre laissé. Ce qui était appelé jour, donc au verset 30, est ici appelé nuit. En effet, disent les pères, le jour du jugement sera pour beaucoup, surtout pour ceux qui sont damnés fatales et calamiteux, car la nuit et l'obscurité sont les symboles des grands malheurs. La nuit, c'est le symbole du pouvoir du démon, du pouvoir des ténèbres, du pouvoir des ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que la nuit, tous les chats sont gris, on ne voit plus ce qui se passe. C'est pour ça que la plupart des gros péchés se font la nuit. Je vous l'ai déjà, sans doute déjà dit dans d'autres cours, mais je me permets de me répéter. Ça m'a beaucoup frappé dans l'histoire des peuples aztèques en Amérique latine, pays dans lequel j'ai beaucoup missionné, quand j'étais dans la Fraternité Saint-Pélis il y a longtemps. Ils croyaient, les peuples aztèques, au temps où les Européens construisaient les cathédrales, on assassinait les gens au Mexique. On assassinait les gens au Mexique, les prêtres aztèques, cette fausse religion, tuaient des dizaines de milliers de jeunes hommes, de jeunes femmes, d'enfants, pour arracher leur cœur et les offrir à leur faux dieu au sommet des pyramides, le dieu soleil. Et comme ils adoraient le soleil, ils faisaient attention, d'après la conception de leur fausse religion, de ne pas offenser leur dieu. Pendant la journée, parce que le soleil brillait, vous voyez ce qu'ils faisaient, ils attendaient la nuit. Et la nuit, ils pensaient que le soleil étant éteint, était parti de l'autre côté de la terre. Et donc la nuit, bon, on pouvait faire tout ce qu'on voulait, parce que le soleil n'était pas là pour voir ce qu'on faisait. Et donc, ils vivaient n'importe comment, surtout la nuit. Et la journée, ils faisaient attention de ne pas offenser la loi de leur dieu soleil. Mais pour nous, nous n'adorons pas le soleil, nous adorons celui qui a fait le soleil, le créateur du soleil. Créateur du ciel et de la terre, notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu, vrai homme, c'est lui qu'on adore. Et lui, c'est un soleil qui brille tout le temps sur notre âme, jour et nuit, 24 heures sur 24, tous les jours de l'année, tous les jours de notre vie. Et il voit tout ce que nous faisons. Si nous réalisions que lorsque nous commettons un péché grave, c'est valable pour moi aussi, si je commets un péché mortel, je commets un péché mortel sous le regard même de Dieu. Est-ce qu'un époux qui veut faire une grosse bêtise contre sa dignité, contre la pureté par exemple, avec quelqu'un d'autre que son épouse légitime, va le faire devant son épouse? Il va faire attention, hélas, de pratiquer ses horreurs quand sa femme n'est pas là pour qu'elle ne le voit pas. Quand un enfant veut faire des bêtises, la maman a dit qu'il ne fallait pas prendre de fraises dans le réfrigérateur parce que c'était pour le repas du soir. Et le gamin de 5 ans qui veut désobéir à sa mère et qui veut prendre une fraise dans le réfrigérateur en désobéissance à sa mère, il attend que sa mère soit plus dans la cuisine. Alors il ouvre discrètement le réfrigérateur et il prend la fraise. Est-ce que vous croyez que cet enfant va être suffisamment bête pour faire ça devant sa mère, alors que sa mère est dans la cuisine, travaille dans la cuisine, prépare le repas du soir et voit le gamin ouvrir la porte du réfrigérateur pour prendre une fraise? Il ne va jamais faire ça devant sa mère. Mais si vous expliquez à l'enfant qu'il faut obéir à sa maman, vous aurez peut-être du mal à vous faire obéir. Mais si vous expliquez à l'enfant que Dieu est dans la cuisine et voit l'enfant qui ouvre en désobéissance à sa mère à la porte du réfrigérateur pour prendre des fraises contre l'ordre de sa mère, il le fait sous les yeux de Dieu qui est le supérieur de sa maman et donc son propre supérieur. Et si l'enfant réalise, là l'ange gardien me voit, il me voit désobéir à ma mère, il me voit voler cette fraise qui ne m'appartient pas, que je n'ai pas le droit de prendre. Il me voit commettre un péché de désobéissance, il me voit commettre un péché de gourmandise, un péché d'orgueil aussi. Mais quand l'enfant réalise, et qu'on lui demande, vous avez désobéi mon petit, vous avez désobéi à votre maman, vous avez pris le fruit défendu dans le réfrigérateur. Votre maman était dans la cuisine quand vous avez fait ça. Ah ben non, monsieur l'abbé n'était pas là, c'est pour ça que je l'ai fait. Et le bon Dieu, il était dans la cuisine. Et votre ange gardien, il était dans la cuisine avec vous. Ah ben je sais pas, je ne les ai pas vus. Mais regardez bien, réfléchissez. On fait réfléchir l'enfant, on lui fait reconnaître. Le bon Dieu était dans la cuisine et il vous a vu ouvrir la porte du réfrigérateur, vérifier que votre maman était partie dans le jardin faire quelque chose. Et il vous a vu ouvrir la porte du réfrigérateur, prendre le plat avec les fraises et voler ses fraises, désobéir à votre maman et commettre ce péché. Et votre ange gardien est en train de pleurer de voir son protégé en train de désobéir à la loi divine, désobéir à l'autorité sur l'enfant, à savoir l'autorité de sa mère. Donc ce jour du jugement est symbolisé justement comme la nuit, ce jour du jugement donc qui sera pour les damnés fatal et calamiteux, car la nuit est le symbole des grands malheurs. Au contraire, le jour est symbole de la lumière, de la grâce. Dieu opère de jour, le démon opère de nuit. C'est pour ça qu'on dit que le démon est le prince des ténèbres, que notre Seigneur Jésus-Christ est le prince de la grâce, le prince de la beauté. Rappelez-vous, pour ceux qui ont fait les exercices de Saint-Ignace, les quatre signes par lesquels on peut reconnaître la présence du démon autour d'une âme. Il y a la tristesse, bien sûr, la confusion, l'obscurité et l'attraction vers le laid, vers les choses laides. Au contraire, les quatre signes par lesquels on peut reconnaître que le bon Dieu tourne autour de mon âme, que l'ange gardien est tout proche de moi, c'est d'abord la paix, la joie, la lumière, l'attraction vers les choses belles. De même que la nuit termine le jour et le temps du travail, disent les pères, ainsi ce jour sera la fin du travail et du mérite. Une faute d'orthographe, il faut que je corrige. Selon les mots, la nuit vient où personne ne peut travailler, le jour du jugement est donc bien à propos, appelé nuit. Il faut réfléchir à tout cela. Un jour, je serai jugé. Et ce jour-là, la lumière des projecteurs de Dieu illumineront ma conscience et plus rien ne pourra être caché. Il n'y a pas un iota qui ne sera pas dévoilé. Le plus petit acte contre la loi du bon Dieu sera révélé. D'abord de façon privée, au jugement particulier, le jour, à l'instant de ma mort, puis plus tard, au jour du jugement général, à la fin des temps. Tout le monde connaîtra mes péchés. La Sainte Église ou l'âme, qui n'est pas souillé par le péché, qui écrase le grain mûri par la chaleur du soleil éternel, présente à l'homme une bonne farine qui vient du sanctuaire de leur cœur. Donc la femme qui moue représente celui qui fait son devoir d'État, se sanctifie par le fait qu'il remplit son devoir d'État devant Dieu, jour après jour, pour la plus grande gloire du bon Dieu, avec un grand sourire. N'oubliez pas le dernier point. Passons à la page 12. Les deux hommes qui sont dans le champ, dit Saint Luc au verset 35, l'un sera pris, l'autre laissé. Ces deux hommes qui sont dans le champ représentent les deux esprits qui sont en nous. L'un extérieur qui gaspille tout et perd tout ce qu'il a, et l'autre qui se renouvelle devant le très saint sacrement, donne du bon fruit par sa diligence. Et l'homme du jour, l'homme de la nuit. Et là, le chrétien du jour, le chrétien de l'évangile, c'est l'expression du Père Emmanuel. Donc il faut penser, mais bien sûr, mes chers frères, à tout ça. Dieu voit chacune de nos actions. Notre ange gardien est tout proche de nous et voit tout ce que nous faisons. Il voit lorsque nous obéissons Ces bons conseils, il voit aussi, il entend aussi notre refus d'obéissance. Est-ce que je répondrai, est-ce que je ferai une chose mauvaise devant un témoin? Bien sûr que non, je me cacherai, je me cache pour faire le mal. Bien, si je réalise que mon ange gardien est près de moi, il voit tout ce que je fais, et présente à Dieu, qui est aussi présent parce qu'il est, il est partout, par sa présence, par son essence, par sa puissance, dit saint Thomas, il ne faut pas oublier tout ça. Saint Thomas explique qu'il est, il est là par sa présence. Par sa présence, parce qu'il peut tout, il est là par sa puissance, et par sa présence parce qu'il est partout, par sa puissance, parce qu'il fait, il peut tout faire, et par son essence parce qu'il est cause de tout. À ce propos, je voudrais vous rappeler l'enseignement de saint Thomas d'Aquin, donc sur ce magnifique sujet, Dieu est-il présent partout, par l'essence, la puissance et la présence. C'est dans la première partie de la somme théologique, prima pars, question 8, article 3. Je vous lis la partie principale de l'article qui est splendide, un des plus beaux articles de saint Thomas d'Aquin, surtout, certainement. Voilà ce que dit saint Thomas ici, d'abord saint Grégoire le Grand. Donc il se pose la question, Dieu est-il partout par l'essence, la puissance et la présence? Ici d'abord saint Grégoire le Grand qui affirme, Dieu est de manière générale en toute chose, par sa présence, sa puissance et sa substance. Pourtant il est dit présente chez certains, une présence intime et familière par sa grâce. On voit très bien que saint Thomas d'Aquin prend grand soin de citer les anciens. Qu'est-ce que disent les pères? Les pères sont ceux qui ont l'interprétation de l'Écriture sainte. Donc je répète cette phrase capitale de saint Grégoire. Dieu est présent d'une manière générale par sa présence, sa puissance, sa substance. Mais chez certains, il est présent d'une façon plus intime, plus particulière, plus familière par sa grâce. Donc Dieu est partout, chez tous les hommes. Là, avec sa présence, sa puissance, sa substance, parce qu'il est créateur de tous les hommes qui sont créés à son image, ils ont tous une âme. Mais chez certains, il y est d'une façon plus intime, plus familière, par sa grâce. Ça, c'est au contraire chez les gens qui sont pas simplement créés à l'image de Dieu, mais aussi à la ressemblance de Dieu. Et voilà ce que dit saint Thomas. Il y a deux manières dont on dit que Dieu est dans une chose. D'abord, comme cause efficiente, et de la sorte, il est dans tout ce qu'il a créé. Ensuite, comme l'objet d'une opération, et en celui... Comme l'objet d'une opération est en celui qui opère, ce qui est propre aux opérations de l'âme, ou l'objet connu dans le sujet connaissant, l'objet désiré dans celui qui le désire. De cette seconde façon, Dieu est spécialement dans la créature raisonnable, lorsqu'elle le connaît et l'aime en acte ou par habitus. Et parce que la créature raisonnable a cela par grâce, comme on le verra plus tard, c'est de cette façon que Dieu est dit être dans les saints par la grâce. Comment il est dans les autres créatures? Il faut l'examiner par comparaison avec ce qui se passe dans les choses humaines. Ainsi, on dit d'un roi, dit saint Thomas, qu'il est dans tout son royaume, savoir par sa puissance, bien qu'il ne soit pas présent partout, il est là par ses envoyés. Par sa présence, quelqu'un dit être dans toutes les choses passées sous son regard, comme dans une maison, tout ce qui s'y trouve est présent à celui qui l'habite, bien qu'il ne soit pas substantiellement dans toutes les parties de la maison. Et enfin, selon la substance ou l'essence, quelqu'un est dans le lieu où sa substance se trouve. Alors, saint Thomas parle des hérétiques, des manichéens, qui ont prétendu qu'à la puissance divine sont soumises toutes les créatures spirituelles et incorporelles, mais que les créatures visibles et corporelles sont soumises au pouvoir du principe contraire, du démon. Quant à cela, il faut dire que Dieu est en toute chose par sa puissance. D'autres hérétiques, dit saint Thomas, admettant que tout est soumis à la puissance divine, ne consentez pourtant pas à étendre la providence de Dieu jusqu'aux humbles réalités corporelles. Ce sont eux qui parlent ainsi au livre de Job. Ils circulent au pourtour des cieux et ne s'occupent pas de nos affaires. Contre cela, il était nécessaire de dire que Dieu est en toute chose par sa présence. Enfin, d'autres encore, en accordant que tout relève de la providence, ont prétendu que tout n'a pas été créé par Dieu immédiatement, mais seulement les premières créatures, lesquelles ont créé les autres. Et contre ces derniers, il faut dire que Dieu est en tout être par son essence. Ainsi donc, voilà la partie la plus belle de l'article de saint Thomas, Dieu est en tout par sa puissance, parce que tout est soumis à son pouvoir. Il est en tout par présence, parce que tout est à découvert et comme à nu devant ses yeux. Il est en tout par essence, parce qu'il est présent à toute chose comme cause universelle de leur être. Donc, nulle perfection, c'est la conclusion de saint Thomas, nulle perfection surajoutée à la substance ne fait que Dieu soit en quelqu'un comme objet connu et aimé. Par conséquent, la grâce seule détermine une manière singulière dont Dieu est dans toutes les choses. C'est ce que disait en introduction de cet article saint Grégoire le Grand, d'une manière plus spéciale, chez certains, Dieu est présent d'une manière intime, d'une manière familière par sa grâce. Donc la présence de Dieu par la grâce est infiniment supérieure à la présence de Dieu générale chez tous les êtres humains qui ne sont pas enfants de Dieu, qui n'ont pas le baptême, par sa présence, sa puissance, sa substance. Donc chez tous les êtres, Dieu est là, par sa présence, sa puissance, sa substance. Chez les catholiques qui vivent en état de grâce, il est présent, bien sûr, il est là par sa présence, sa puissance, sa substance, et aussi par sa grâce. Je vous renvoie au cours que j'ai mis sur... mon site internet, le cours sur saint Thomas d'Aquin, pour ceux qui veulent plus de détails sur ces parties magnifiques de la Somme. Donc, les deux hommes dans le champ, page 12, représentent les deux esprits qui sont en nous. L'un extérieur qui gaspille tout et perd tout ce qu'il a, et l'autre qui se renouvelle devant le très saint sacrement, donne du bon fruit par sa diligence. Donc ces deux hommes peuvent aussi représenter deux nations, l'une fidèle qui est prise, l'autre infidèle qui est laissée. Alors saint Augustin va expliquer encore davantage. À la page 12. Trois classes d'hommes sont ici représentées. Et dans chacune de ces classes, il y a deux sortes d'hommes, ceux qui habitent dans l'Église, qui sont pris, et ceux qui tombent, qui restent. La première classe est celle qui préfère tranquillité et facilité. Elle ne se préoccupe pas des affaires séculières ou ecclésiastiques, cette vie tranquille est signifiée par le lit. Donc, rappelez-vous, le verset 34, je vous le dis, en cette nuit-là, deux seront dans le même lit, l'un sera pris, l'autre laissé. C'est les paresseux qui dorment toute la journée, au lieu de remplir leur devoir d'État. La deuxième classe embrasse ceux qui sont placés parmi le peuple et gouvernés par des maîtres. Ils sont décrits sous le nom de femmes, car il est meilleur pour eux d'être dirigés par les conseils de ceux qui sont placés au-dessus d'eux. Elles sont en train de moudre parce que leurs mains tournent la roue et le cercle des choses temporelles, mais elles meulent ensemble parce qu'elles donnent leur service au bénéfice de l'Église. Ça, c'est le verset 35. Deux femmes moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Enfin, la troisième classe sont ceux qui travaillent dans le ministère de l'Église comme dans le champ de Dieu. Deux hommes seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Oui, donc il y a trois classes, les deux dans le même lit, les deux femmes qui meulent ensemble et les deux hommes qui travaillent dans un champ. Dans les trois cas, quel que soit l'état de l'âme, Dieu va venir comme un voleur en pleine nuit sans prévenir. Donc il faut être prêt. Donc est-ce que moi aussi je suis un paresseux, en attendant toujours le lendemain pour faire ce que j'ai à faire? Est-ce que je suis au contraire un bon catholique et je vis de telle façon que notre Seigneur Jésus-Christ puisse venir n'importe quand? Rappelez-vous saint Jean Berchmans, j'ai souvent donné cet exemple en sermon, saint Jean Berchmans qui n'avait pas peur de la mort et qui, répondant à la question d'un prêtre qui lui demandait « Qu'est-ce que vous feriez si vous restiez 5 minutes pour vivre ?» Tous les enfants de l'école avaient répondu à cette question la même chose en disant « Je me précipiterai au confessionnal pour me confesser, utilisant les 5 dernières minutes de ma vie pour me confesser. » Saint Jean Berchmans avait dit « Monsieur l'abbé, moi j'aurais tranquillement terminé ce que j'étais en train de faire. C'était pendant la récréation que la question a été posée, pendant la récréation mon devoir d'état est de jouer, j'aurais continué mon jeu tranquillement. » Pourquoi saint Jean Berchmans pouvait répondre ainsi à cette question? Tout simplement parce qu'il vivait à l'état de grâce. Et il est devenu saint et tout ciel. Donc on peut faire une comparaison entre ce passage de saint Augustin et le passage des trois classes dans les exercices de saint Ignace. Pour ceux qui se rappellent, c'est à la fin de la deuxième partie de la retraite, ce qu'on appelle le cœur de saint Ignace, le cœur des exercices. Ces trois grandes méditations clés, l'appel du Christ roi, les deux étendards et les trois classes. Et saint Ignace parle des trois classes d'hommes. La première classe, dit-il, sont ceux qui se rendent compte qu'ils sont trop attachés à certaines choses Ils veulent se défaire de l'affection que cette personne éprouve pour le bien qu'elle possède afin de trouver Dieu notre Seigneur dans la paix, de pouvoir opérer, trouver son salut. Mais dans la pratique, cette personne n'emploie de fait aucun moyen avant l'heure de la mort. C'est tous ceux qui se disent, demain je deviens saint, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui je suis trop occupé, j'attends. Rappelez-vous le coiffeur qui avait mis à la porte, devant son échoppe, un petit mot qui disait demain on rase gratis. Le problème, c'est que c'était toujours le lendemain et jamais le jour. Beaucoup de gens sont comme ça. Je veux bien devenir un saint, mais pas aujourd'hui, demain. Deuxième classe, la deuxième classe, dit Saint Ignace, veut détruire cette affection, mais elle le veut à condition de conserver le bien acquis. Elle voudrait amener Dieu à son désir, elle ne peut se déterminer à quitter ce qu'elle possède pour aller à Dieu, quand même ce parti serait le meilleur pour elle. Oh mon Dieu, je veux aller au ciel, mais c'est moi qui choisis le temps, qui choisit les circonstances et la façon d'y aller. Troisième classe, veut aussi se dégager de cette affection. Elle le veut de telle sorte qu'elle n'est pas plus portée à conserver la somme acquise ou la chose qu'elle veut conserver qu'à ne pas la conserver. Elle ne consultera pour la retenir ou pour s'en défaire que le mouvement intérieur de la grâce et ce qui lui paraîtra le meilleur pour le service et la louange de la divine majesté. En attendant, elle veut se conduire comme ayant tout abandonné de cœur et elle s'efforce de ne désirer ni ce qu'elle possède, ni aucun autre bien sur la terre que dans la seule considération du pouvoir de la majesté divine. En sorte que le désir de pouvoir mieux servir Dieu notre Seigneur sera son unique règle pour se déterminer à retenir le bien qu'elle a acquis ou à s'en dépouiller. La troisième classe, c'est donc celui qui dit, mon Dieu, que votre volonté soit faite. La seule façon d'être heureux sur la terre, c'est de dire au bon Dieu tous les matins, mon Dieu, que votre volonté soit faite. Hein. Un autre passage de Saint-Ignace qu'on peut utiliser pour expliquer cela, c'est dans l'ouverture des exercices, qu'on appelle le principe et fondement pour ceux qui ont fait des exercices. Voilà ce que dit Saint-Ignace. Il est nécessaire de nous rendre indifférents. À l'égard de tous les objets créés, en tout ce qui est laissé au choix de notre libre arbitre, elle ne lui est pas défendue. De sorte que de notre côté, nous ne voulions pas plus la santé que la maladie, les richesses que la pauvreté, l'honneur que le mépris, une longue vie qu'une vie courte, et ainsi de tout le reste, désirant et choisissant uniquement ce qui nous conduit plus sûrement à la fin pour laquelle nous sommes créés. Mon Dieu, que votre volonté soit faite. Si je m'agrippe à ma volonté propre, je ne peux pas être heureux. Si je dis, mon Dieu, que votre volonté soit faite, à ce moment-là, je peux vraiment trouver la paix. On peut reprendre aussi la belle prière qui est dans le rituel anglais, la petite langue anglaise pour les mariages. Je le fais moi aussi en France quand je fais des mariages, quand je suis témoin d'un mariage, je propose cette belle prière après le mariage lui-même, après que le prêtre ait béni le mariage, après que les époux se soient répondus à cette question, voulez-vous prendre pour légitime époux, pour légitime épouse, cette personne ici présente selon le rite de notre mère la Sainte Église. Voilà ce que dit le prêtre. Je vous prends, chacun va répondre, d'abord l'époux, puis l'épouse. Je vous prends pour ma légitime épouse, afin de vous garder à partir de ce jour, pour le meilleur et pour le pire, à travers richesse et pauvreté, maladie et santé, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et l'épouse va aussi dire la même chose. Je vous prends pour mon légitime époux, afin de vous garder à partir de ce jour, pour la meilleure et pour le pire, à travers richesse et pauvreté, maladie et santé, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc c'est ce qu'on appelle la sainte indifférence ignatienne. Mon Dieu, que votre volonté soit faite. Page 12, toujours, un commentaire de Saint Cyrille. Partout sera le corps, là aussi se rassembleront les aigles. Bon, là, on dit que c'est le verset le plus difficile à expliquer de la Bible. C'est sans doute vrai. Les pères de l'Église ne savent pas très bien comment interpréter ce passage un peu spécial, un peu difficile à comprendre. Partout sera le corps, là aussi se rassembleront les aigles. Voilà le commentaire de Saint Cyrille. Partout sera le corps, là aussi se rassembleront les aigles, parce que quand un corps mort est jeté, tous les oiseaux qui se nourrissent de chair humaine se rassembleront sur lui. De même, quand le Fils de l'homme viendra, tous les aigles, c'est-à-dire tous les saints, se précipiteront à sa rencontre. C'est une interprétation. Il y a d'autres interprétations. Le corps peut aussi représenter notre Seigneur Jésus-Christ, mais le corps peut aussi représenter le cadavre d'une personne qui vient de mourir. Et donc, toutes les vautours, donc les démons sont des vautours, se précipitent sur ce cadavre pour le dépecer. C'est le symbole du démon s'il sait que cette personne vient de mourir en état de péché mortel, vient prendre possession de cette âme qui lui appartient. Autre commentaire de saint Ambroise cette fois-ci. Les âmes des justes sont comparées aux aigles, car ils volent très haut, abandonnent les parties basses et on dit qu'ils vivent fort longtemps. Concernant le corps, il faut nous rappeler que Joseph reçut le corps du Christ de Pilate. Ici, c'est Joseph d'Arimathie, saint Joseph d'Arimathie. Les aigles sont les saintes femmes et les apôtres réunis devant le sépulcre du Seigneur. Quand notre Seigneur reviendra sur les nuées du ciel, tous les yeux le contempleront. Lui qui disait « Mon corps est chair en vérité ». Autour de son corps sont les aigles qui volent sur les ailes de l'Esprit. Autour de lui sont les aigles qui croient que le Christ est venu dans la chair. Ce corps est l'Église dans laquelle, par la grâce du baptême, nous sommes renouvelés dans l'Esprit. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'interprétations différentes selon les pères. Il y a des domaines dans lesquels les pères ont des idées différentes sur certains points particuliers, un peu difficiles. Et rappelez-vous ce que je vous ai déjà expliqué au début de ce cours, que lorsque tous les pères disent la même chose, donnent la même interprétation sur un verset d'Écriture sainte, que tous les grands-pères de l'Église sont d'accord là-dessus, sur la même interprétation à donner, l'Église engage son infaillibilité. Oui. L'exemple classique, c'est les phrases de la consécration. Quand notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu est son corps, tous les pères de l'Église disent il faut interpréter cela de façon historique. Ce n'est pas une interprétation allégorique, mystique, spirituelle, ou anagogique, ou morale, ou anthropologique. Non, c'est une interprétation stricte. Ceci est mon corps, c'est vraiment le corps de notre Seigneur Jésus-Christ avec son âme et sa divinité et son sang. Autre interprétation de saint Eusèbe, les aigles qui se nourrissent sur les animaux morts symbolisent les dirigeants du monde. Une autre interprétation complètement différente. Les dirigeants du monde et ceux qui persécutent les saints de Dieu, qui ont le pouvoir de ceux qui sont indignes d'être pris, qu'on appelle le corps ou la carcasse. Les aigles représentent ainsi aussi les pouvoirs vengeurs qui voleront pour persécuter les damnés. Donc, d'autres, ces aigles, ces vautours, en fait, qui viennent se précipiter pour se nourrir d'un animal mort, du corps d'un animal mort, parce que les vautours ne se nourrissent d'animaux morts, bien représentent les démons qui tournent autour des gens qui vivent dans le péché mortel en attendant leur mort. Parce que tant que la personne n'est pas morte, elle est dans le temps, donc elle peut encore changer. Le démon ne peut pas la posséder complètement. Mais il sait que dès que cette personne va passer du temps à l'éternité, si elle a le malheur de tomber dans l'éternité alors qu'elle est en état de péché mortel, eh bien, elle appartiendra au démon. C'est terrible. Quand on pense au jugement particulier d'une personne qui meurt en état de péché mortel, et donc ce jugement particulier, il y a notre Seigneur Jésus-Christ qui est là, à l'instant même de la mort, à l'endroit même de la mort, disent les saints, les pères de l'Église, à l'instant même de la mort, à l'endroit même de la mort, il y a notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sainte Vierge Marie, Saint Joseph, l'ange gardien, la personne qui vient de mourir, évidemment, et le démon. Et si cette personne est en état de péché mortel, le démon peut venir et dire à Dieu, « Cette âme m'appartient. » J'en suis le maître parce qu'elle est morte à mon service. Elle est morte en état de péché mortel. Elle m'appartient. Elle va maintenant me suivre dans mon royaume d'enfer. Et le démon va se précipiter sur cette âme et l'envoyer en enfer. Sainte Vierge va pleurer, Saint Joseph va pleurer, notre Seigneur Jésus-Christ va pleurer, l'ange gardien va pleurer. Mais il ne peut rien faire parce qu'on n'est plus dans le temps. On est dans l'éternité. Je pense souvent à ça, je vais de temps en temps, quand j'ai un petit peu de temps, mes sports favoris, c'est la haute montagne. Ici, il n'y en a pas beaucoup du côté, à l'endroit où j'y vais en France, mais il y a des belles falaises, je peux faire un peu de temps en temps, j'essaie d'aller faire une via ferrata. Et j'en fais souvent à Millau, il y a des très belles via ferrata dans la région de Millau. Il y en a une qui est une paroi magnifique, ça s'appelle la via ferrata du Beaufy au-dessus de Millau. Et il y a des couples de vautours qui vivent là. Et à chaque fois que je vais faire une via ferrata, il y a toujours 5 ou 6 vautours qui volent tout proche de ceux qui font la via ferrata et qui attendent qu'une seule chose, c'est que le via ferratiste tombe et se tue. Et au pied de la falaise, à ce moment-là, tous les vautours vont se précipiter pour manger les viscères de cet homme décédé. Mais tant qu'il est vivant, les vautours tournent autour et font rien. Ils ne cherchent pas, ils ne sont pas du tout violents, ils attendent parce qu'ils se nourrissent que d'animaux morts. Ce sont les ramasseurs des poubelles, en quelque sorte, de la nature. Donc ces aigles représentent, disent les pères, les pouvoirs vengeurs qui voleront ou persécuter les damnés. Le Père de l'Église souvent compare justement ces démons à des animaux qui se nourrissent de charognes. On a commencé le chapitre 18. À la page 13, donc de Saint-Luc. Page 13, donc c'est un chapitre assez court au niveau des explications. Certaines parties qui sont pour lesquelles il y a beaucoup de commentaires des pères légués, certaines parties dans lesquelles il y en a moins. Bon, on peut toujours en trouver davantage, hein, mais je n'ai pas pu consulter tous les pères de l'Église, ça serait impossible. Je n'ai pas le temps ni l'intelligence pour faire cela. Donc, rappelez-vous que je travaille surtout avec... j'ai travaillé à partir du texte de saint Thomas d'Aquin, la chaîne d'or, et également le Cornelius à Lapide, dans son grand commentaire sur l'Écriture sainte. Voyons les premiers versets, versets 1 à 8 du chapitre 18 de Saint-Luc. Voilà le texte. Jésus leur disait aussi une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Il y avait, dit-il, dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu, qui ne se souciait pas des hommes. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait auprès de lui en disant « Faites-moi justice de mon adversaire ». Et il refusait pendant longtemps, mais ensuite il se dit en lui-même « Quoique je ne craigne pas Dieu et que je ne me soucie pas des hommes, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice de peur qu'à la fin elle en vienne à me frapper ». Et le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit ce juge d'iniquité, et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tarderaient de les secourir ». Je vous le dis, il en fera promptement justice. Mais lorsque le Fils de l'homme viendra, pensez-vous qu'il trouve la foi sur la terre? Pas oublier ce verset 8, un verset capital que je cite souvent en sermon. À la fin des temps, lorsque le Fils de l'homme viendra, donc c'est la fin des temps, le jugement général, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ à la fin des temps, pensez-vous qu'il trouve la foi sur la terre? C'est fort comme phrase. J'ai jamais osé prononcer une phrase pareille. Notre Seigneur Jésus-Christ, il le peut, il est Dieu. Il parle de la voie large. Nombreux sont ceux qui parlent, qui prennent la voie large, qui mène à la perdition. Et peu nombreux sont ceux qui prennent la voie étroite et resserrée, qui mène à la vie éternelle. Lorsque le Fils de l'homme viendra, pensez-vous qu'il trouve la foi sur la terre? Ça laisse rêveur. Pourtant, c'est exactement notre histoire aujourd'hui. Prenez la France. Soi-disant, France fille aînée de l'Église. Elle est toujours fille aînée de l'Église. Elle est plutôt en mauvaise santé actuellement, la fille aînée de l'Église, mais enfin, elle est toujours fille aînée de l'Église en principe. C'est 65 millions de Français. Combien d'états de grâce? Combien de Français sont en état de grâce? Prenons plus exactement le nombre de Français d'âge de raison. J'ignore le nombre de Français qui ont l'âge de raison. Disons, je ne sais pas, 60 millions de Français qui ont l'âge de raison. Sur ces 60 millions de Français qui ont l'âge de raison, combien sont en état de grâce aujourd'hui? En ce jour où je fais cet enregistrement, aujourd'hui c'est le 30 mai 2021. Le 30 mai 2021, à 9h05 du soir, combien de Français qui ont l'âge de raison sont en état de grâce? Je pense qu'il vaut mieux ne pas avoir cette réponse. Parce que si le bon Dieu nous disait combien de Français sont en état de grâce aujourd'hui, en ce jour, en cette heure où je vous parle, je pense qu'on serait complètement découragé. Je ne sais pas. Je ne peux pas donner une réponse à cette question. Mais quand on voit la corruption, quand on voit les péchés contre nature qui se multiplient comme les sauterelles, quand on voit toutes ces horreurs contre nature, non seulement les péchés de sodomie, mais également les péchés de tous ces péchés de gens qui prétendent être Dieu et changer le sexe des gens, enfin, des horreurs. Quand on voit tous ces ménages brisés, tous ces enfants qui vivent dans le péché mortel dès l'âge de 7-8 ans, la pornographie qui se répand partout, ces 250 000 enfants qui sont coupés en morceaux, arrachés, démembrés dans le sein de leur mère tous les ans. L'islam qui se répand partout en France. L'église de Vatican II qui continue de détruire les âmes à tour de bras avec Bergoglio, ses petits amis. Quand on voit l'Église catholique qui semble se réduire comme une peau de chagrin, qui se réduit à des dimensions domestiques, comme disait le cardinal Pi, fait combien d'âmes qui sauvent ça? Je ne sais pas. Quelques milliers, guère plus. Alors on peut se poser une deuxième question, s'il n'y a que quelques milliers d'âmes sur ces 60 millions de Français qui ont l'âge de raison, qui se sauvent, avec la grâce du bon Dieu, peut-être que vous et moi, nous faisons partie de ces quelques milliers. Pourquoi est-ce que j'en fais partie? Pourquoi est-ce que le bon Dieu a eu pitié de moi? Pourquoi est-ce que le bon Dieu m'a donné la grâce du baptême? Pourquoi est-ce que le bon Dieu m'a donné la grâce de la confession régulière? Pourquoi est-ce que le bon Dieu m'a donné la grâce de la messe non unicum régulièrement? Pourquoi est-ce que le bon Dieu a eu pitié de moi, a fait de moi un prêtre? Pourquoi est-ce que le bon Dieu a permis que je puisse conserver la foi comme prêtre? Pourquoi le bon Dieu a-t-il permis que je sois dans l'Église catholique et je ne sois pas tombé comme tant de gens autour de moi dans l'Église de Vatican II? Pourquoi? Non pas par mes propres forces, moi je suis rien du tout. Le bon Dieu a pitié de moi. Pourquoi a-t-il eu pitié de moi? Parce que le bon Dieu m'aime d'un amour miséricordieux infini. Voilà ce texte donc du Père Vallée. Le Père Vallée, c'est ce prêtre espagnol autour des années 1920-1930 en Catalogne, qui est le fondateur des CPCR, des coopérateurs paroissiaux du Christ-Roi. C'est lui qui a réduit les exercices de Saint-Ignace d'un mois complet à 5 jours. Ce sont les exercices que j'ai appris à prêcher. Donc, les exercices de Saint-Ignace en 5 jours, selon la méthode du Père Vallée. À ce propos, je vous rappelle que j'ai encore des places pour les deux dernières retraites de l'année, du 13 au 18 septembre et du 18 au 23 octobre prochain. Voilà le texte. Dieu m'aime, il ne veut pas la mort du pécheur, mais sa conversion et qu'il vive. Toutes ces constatations conduisent normalement à contempler, plus spécialement à l'infini de cet amour miséricordieux qui m'a épargné jusqu'à ce jour. Qu'est-ce que l'amour miséricordieux sinon le cœur de Dieu qui se penche sur la misère humaine? Dieu, personne ne l'a jamais vu. Les anciens ne pouvaient pas savoir comment il est, mais depuis que son fils s'est fait homme, on peut, en contemplant Jésus, découvrir le Père. Philippe, qui me voit, voit mon Père, car il est l'image visible de Dieu invisible. Dans cette contemplation, nous allons nous donc goûter le cœur de Jésus pour découvrir le cœur de Dieu. Comment savoir si quelqu'un a du cœur? En observant son comportement avec les enfants, les malades, les pécheurs. Les enfants, les petits, qui ne savent pas encore dissimuler leurs sentiments, qui se livrent d'instinct à ceux qui les aiment. Contemplons le comportement du Maître, notre Seigneur Jésus-Christ, avec les petits. Jésus les bénissait, les laissait s'approcher de sa personne, il les atterrait, les caressait, les bénissait. Philippe, qui me voit le Père. Notre Seigneur, le seul vrai Dieu, n'est pas un Dieu lointain, un Dieu qui aurait créé le monde et qui s'en désintéresserait. Non, en Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Il est notre Créateur, notre Maître, mais il veut surtout être notre Père. Eh bien, c'est ce Dieu si bon, si aimable, si digne d'être aimé que j'ai offensé par mes péchés. Comme je dois les regretter. Sans doute je regrette mes péchés pour la raison qui m'ont mérité l'enfer. Il faut être fou pour ne pas craindre l'enfer. Mais je les regrette aussi, je vais les regretter surtout parce que je réalise qu'ils ont offensé un Dieu qui est si bon, si aimable, si digne d'être aimé. Donc ce que le Père va les pousser ici à obtenir, c'est la grâce de la contrition parfaite. Regretter ses péchés, non pas par peur de l'enfer, contrition imparfaite, mais par amour de Dieu. Mettons-nous à genoux, Dieu est là, n'en doutons pas. Dites-lui votre repentir, pleurons nos péchés. Si ce point vous suffit pour faire pleurer vos péchés, par amour au pied de Jésus, il est inutile de passer au point suivant. Mais le Père Vallée continue. Nous devons réaliser qui est celui que nous avons offensé, pour pleurer d'amour à ses pieds, non seulement pour manifester son repentir, mais aussi surtout pour réparer. N'hésitons pas, reprenons à notre compte les propos de Pierre pénitent. Dites-lui, Seigneur, vous savez tout, vous savez bien que je vous aime. On peut voir aussi les malades, le comportement de notre Seigneur par rapport aux malades, surtout ceux qui le sont depuis longtemps, qui sont répugnants. Songeons à ce qui devait être l'époque du Christ, par exemple, les lépreux, et aussi ceux qui avaient des plaies purulentes, qui les exposaient pour susciter la pitié, et dont on se détourne à cause de cela. Quelle charité ne faut-il pas pour les approcher, les toucher, les soulager, les aimer? Contemplez le comportement du Maître avec les malades. Toutes les pages de l'Évangile sont pleines des bontés de Jésus envers ses laissés pour compte. Je le veux, sois guéri. Lève-toi et marche, vois. Lève-toi, sois purifié, et Jésus les guérit tous. Admirons sa patience, sa condescendance, sa bonté, sa charité, et n'oublions pas le « qui me voit, voit le Père ». Or, c'est ce Dieu si bon, si aimable, si digne d'être aimé que j'ai offensé. Il faut voir aussi l'amour de Dieu pour les pécheurs. Surtout les pécheurs publics, ce que les pharisiens de tous les temps mettent au banc de la société. Contemplez le comportement de notre Seigneur avec ses pécheurs. Pour les réhabiliter dans leur dignité de fils et de fille de Dieu, Jésus a composé des paraboles qui sont des merveilles. La drachme perdue, la brebis perdue, l'enfant prodigue, le pharisien, le publicain. Nous en avons vu plusieurs dans Saint Luc, la drachme perdue au chapitre 15, l'enfant prodigue au chapitre 15 de Saint Luc aussi. Nous verrons dans ce chapitre prochain, le chapitre 18 que nous avons commencé là, le pharisien publicain. Jésus a payé de sa personne, il s'est fatigué pour les rejoindre, il s'est abaissé jusqu'à leur demander des services, il les a défendus, il a exposé sa réputation. Enfin, il est allé jusqu'à dire ce que personne n'aurait oser dire si lui, le divin maître, en avait affirmé en premier. Il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui fait pénitence que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de faire pénitence. Là encore, Philippe qui me voit, voit mon Père. Ce que Dieu, ce Dieu si bon, c'est ce Dieu si bon, si aimable, si digne d'être aimé que j'ai offensé. On peut aussi, pour méditer ce verset 8 de Saint Luc, lorsque le Fils de l'homme viendra, pensez-vous qu'il trouve sa foi sur la terre? Vous pouvez aussi utiliser les magnifiques textes de la liturgie des morts, notamment le Dies Irae. Les saints ne pouvaient le prononcer sans trembler, faire trembler leurs cellules. Les moines, les saints moines faisaient trembler leurs cellules de peur quand ils prononçaient ces paroles épouvantables. Jour de colère, jour terrible. C'est la prose de la messe des morts, où l'univers sera réduit en cendres selon les oracles de David et de la Sibylle. Quelle sera la terreur des hommes lorsque le juge paraîtra pour tout examiner avec rigueur? Le son éclatant de la trompette retentissant jusque dans les tombeaux rassemblera tous les morts devant le trône du Seigneur. La mort et la nature seront dans la stupeur quand la créature ressuscitera pour répondre à son juge. On présentera le livre où est écrit tout ce qui doit être la matière du jugement. De jugement du monde. Quand le juge sera assis sur son tribunal, tout ce qui était caché sera dévoilé, aucun crime ne demeurera impuni. Que dirai-je alors, malheureux que je suis? Quel protecteur invoquerai-je quand à peine le juste sera rassuré? Ô roi dont la majesté est si redoutable, qui sauvez vos élus par une miséricorde gratuite, sauvez-moi, source de bonté. Souvenez-vous, ô Jésus plein de douceur, que pour moi vous vous êtes fait homme, ne me perdez pas en ce jour terrible. Vous êtes fatigué à me chercher, vous m'avez racheté en souffrant la mort de la croix, qu'un si grand travail ne soit point sans fruit. Juste vengeur des crimes, accordez-moi le pardon, avant le jour où il me faudra rendre compte de ma vie. Je gémis comme un coupable, la rougeur couvre mon front, ô Dieu pardonnez à celui qui vous supplie. Vous avez absous Marie-Madeleine, vous avez exaucé le larron pénitent, vous m'avez donné à moi-même l'espérance. Mes prières sont indignes d'être exaucées, mais vous qui êtes la bonté même, faites par votre miséricorde que je ne brûle point au feu éternel. Séparez-moi des boucs qui seront à votre gauche et placez-moi à votre droite avec les brebis. Sauvez-moi de la confusion et du supplice des maudits. Vouez aux flammes vengeresses et appelez-moi avec les bénis de votre Père. Prosterné devant vous et suppliant, le cœur brisé comme réduit en poussière, je vous recommande ma fin. Jour de larmes où l'homme coupable renaîtra de sa cendre pour être jugé. Pardonnez-lui, ô Dieu de miséricorde, doux Jésus, Seigneur, donnez-leur le repos éternel. Donc méditons à chaque fois, à la fois les conséquences de nos péchés, en même temps la miséricorde infinie de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pardonne aux pécheurs repentants. Et donc il faut méditer là-dessus, voir la personne du juge, le coupable, les accusateurs, les conséquences de nos péchés. Tant que nous sommes dans le temps, nous pouvons changer, mais une fois qu'on est passé du temps à l'éternité, c'est trop tard. Je conclue avec cette parole de Saint Paul, 1 Corinthiens chapitre 5. Il faut que nous comparaissions tous devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive ce qui est dû à son corps selon le bien ou le mal qu'il aura fait. Sachant donc combien le Seigneur est redoutable, nous tâchons de persuader les nôtres. Celui qui pense à sa mort, eh bien, il évitera la mort d'un péché mortel. Gardez la mort devant les yeux et vous ne pécherez pas, dit la Sainte Écriture. Alors, il y a un moyen de salut, le grand moyen de salut. Il n'y en a pas 36, des moyens de salut, il y en a surtout 3. La prière, la pénitence, les sacrements. Prière et pénitence, qui sont d'ailleurs les deux premières fonctions du prêtre, pour amener les gens au sacrement. Prière, pénitence, pour préparer mon âme à passer au tribunal du sacrement de pénitence. Donc la pénitence, la vertu de pénitence, qui amène au sacrement de pénitence, la confession. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le Seigneur, disent les pères, doit obtenir par la prière ce qu'il veut vous donner. Beaucoup de grâces nous sont préparées par le bon Dieu, qui sont des grâces conditionnelles. C'est-à-dire que Dieu nous les a préparées et il nous les accordera dans la mesure où on les demande. Rappelez-vous ce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit. Il l'a dit expressément. Qu'est-ce qu'il a dit? Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez. Et on vous ouvrira. Sous-entendu, si je frappe pas, si je demande pas, si je cherche pas, ben je trouverai rien du tout. On m'ouvrira pas, on m'écoutera pas. Acceptons donc avec joie l'encouragement du Seigneur pour faire ce qu'il commande et pour ne pas faire ce qu'il interdit. Donc beaucoup de grâces ne sont pas données parce qu'on ne les demande pas. Il faut savoir demander. Mais en même temps, savoir demander avec persévérance. Dieu n'est pas obligé de répondre à chacune des prière qu'on lui fait. Imaginez la pagaille si Dieu était obligé de répondre immédiatement à chaque prière qui lui est faite. Pensez à tous les gens qui prient simplement pour réussir un examen pour lequel ils n'ont pas travaillé. Est-ce que le bon Dieu mérite d'accorder l'examen à ces gens-là? Souvent, les jeunes me téléphonent, me disent « Est-ce que vous pouvez prier pour moi demain? J'ai un examen très important, il faut absolument que je réussisse. Est-ce que vous avez travaillé votre examen, mon ami? Ah non, j'ai rien fichu, c'est pour ça que je vous téléphone pour que vous priez. » Mais attendez, si vous n'avez rien fichu, pourquoi voulez-vous que le bon Dieu fasse un miracle? Vous n'avez rien fichu, eh bien, votre examen, vous ne l'aurez pas. Vous n'avez pas mérité d'avoir votre examen puisque vous n'avez pas travaillé pour l'obtenir. Ah oui, mais je pensais qu'avec la prière ne détruit pas la grâce. La grâce ne détruit pas la nature, pardon. Vous n'avez pas travaillé, vous ne méritez pas. Vous ne méritez pas votre examen. Il faut faire ce qu'on a à faire et après dire, Seigneur, je suis un serviteur inutile, ça c'est différent. Considérons aussi, disent les pères, ce privilège béni qui nous est accordé de pouvoir parler avec Dieu dans nos prières et de faire connaître tous nos besoins. Il répond non pas en parole, mais par sa miséricorde, car il ne méprise pas en demande, il ne méprise pas nos demandes, il ne se lasse que lorsque nous nous taisons. Il faut savoir frapper et être prêt. Rappelez-vous la parabole des vierges folles et des vierges sages. Les vierges sages, elles attendent, elles sont à la porte, elles ont la lampe allumée, elles attendent. Et l'époux arrive au milieu de la nuit sans prévenir. Il entre avec les vierges sages. Et les vierges folles qui avaient oublié d'alimenter leur lampe avec de l'huile, qui ont été obligées d'aller au marchand chercher de l'huile en pleine nuit. Elles reviennent et la porte est fermée. Et l'époux est rentré avec les vierges sages. Alors la tambourine à la porte pour dire « Seigneur, c'est nous !» Et que va répondre le maître? « Je ne vous connais pas. » Il faut mettre cette parole en parallèle avec la phrase très dure qu'on trouve en saint Matthieu. Éloignez-vous, maudit de moi, et tombez pour aller au feu éternel préparé pour Satan et ses anges. Au contraire, aux vierges sages, le bon Dieu va dire, venez avec moi, les bénis de mon Père, possédez le royaume de Dieu qui a été préparé pour vous et pour les anges. Mais l'enfer, c'est pour les maudits, les démons. Le ciel, c'est pour les bons, ceux qui vivent en état de grâce, qui meurent en état de grâce. Donc considérons aussi ce privilège béni qui nous est accordé de pouvoir parler avec Dieu dans nos prières et lui faire connaître tous nos besoins. L'Église catholique est la seule véritable Église, la seule Église qui a un Dieu si proche de ses créatures. Il répond, non pas en parole, mais par sa miséricorde, car il ne méprise pas nos demandes, il ne se lasse que lorsque nous nous taisons. Malheur à nous si nous taisons. On se tait quand on arrête de prier. Beaucoup de gens nous disent, monsieur, mais je n'ai pas envie de prier, alors je ne prie pas. Et c'est précisément quand on n'a pas envie de prier qu'il faut prier. Facile de prier quand tout va bien. D'ailleurs, la plupart des gens, malheureusement, quand tout va bien, ils ne prient pas. Ils commencent à prier au moment où ça va mal. Comme le dit le dicton, au moment où les bombes commencent à tomber, les gens recherchent spontanément la porte de l'église. Le chemin qui mène à l'église, tout le monde le retrouve au moment où les bombes commencent à tomber. C'est un peu tard. Pour ça, les aumôniers de guerre mondiale, qui ont fait des merveilles dans les tranchées, les curés Sakaudo, on les appelait. Ils ont fait des merveilles, alors que les bombes tombaient de tous côtés, ces jeunes conscrits qui voyaient leurs camarades tomber comme des mouches. Le cirque avant de partir à l'assaut des tranchées allemandes, l'aumônier qui disait à tous les hommes dans la tranchée, tout le monde à genoux dans l'absolution. Je sais que tout le monde se mettait à genoux, hein. Et ça ne marchait pas. Et même ceux qui se prétendaient païens, qui avaient oublié la grâce du baptême, à l'époque pratiquement tout le monde était baptisé, tout le monde se mettait à genoux dans la boue. L'aumônier faisait un petit sermon très court de quelques minutes, parfois quelques secondes. Attention, hein, je vais vous donner l'absolution, regrettez bien tous vos péchés, je vous donne l'absolution, et si vous mourrez, vous pourrez aller au paradis avec la grâce du bon Dieu. Offrez vos misères, offrez vos souffrances, offrez votre vie, offrez votre mort en réparation pour tous vos péchés. Je vous pardonne tous vos péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis passez à la tranchée suivante. Et faisait la même chose. Combien de jeunes sont tombés sous les balles allemandes juste après avoir reçu l'absolution de ces prêtres? À Thiepval, dans la Somme, il y a 60 000 tirailleurs anglais, soldats anglais, qui sont morts en une demi-heure, mitraillés par les Allemands. Pourquoi? Parce que ils sont sortis des tranchées, les commandements anglais pensaient qu'ils étaient tous morts, après avoir été pilonnés par les bombes anglaises, ils pensaient que les Allemands étaient tous morts dans les tranchées, qu'en fait ils n'étaient pas morts, ils étaient cachés. Et au moment où le commandement anglais, bien imprudemment, a donné l'ordre à 60 000 Anglais de quitter les tranchées et se précipiter contre les tranchées allemandes, les Allemands ont tranquillement sorti leurs mitrailleuses et ont mitraillé tout le monde. Il y a 60 000 morts en une demi-heure. Mais il faut réfléchir à tout ça. Penser à ces abominations aussi. Par exemple, Hiroshima, Nagasaki. Le nombre de gens, de 100 000 personnes qui sont mortes. Combien étaient en état de grâce? Churchill, Roosevelt. Et qui vont incendier Dresde, pardon, Hambourg. Un déluge de bombes incendiaires pour faire brûler vifs les femmes, les enfants, les vieillards, alors qu'il n'y avait aucune autorité militaire, aucun soldat dans la ville. Combien était en état de grâce? Comme il nous faut méditer tout cela, mes bien chers frères. Alors, je vais arrêter là parce que ça fait déjà plus d'1 heure que je vous parle. Que le bon Dieu nous aide à utiliser ces paroles très fortes de l'Évangile pour nous rappeler que nous sommes des instruments de Dieu, qu'il nous faut être en état de grâce pour pouvoir utiliser les grâces du bon Dieu. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.